Ce matin, j'ai un message pour vous et ça va comme suit, c'est « Que vois-tu ?» Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la pub sur Facebook. On a travaillé au moins 3 heures sur ce titre, c'était incroyable. « Que vois-tu ?» Je ne sais pas s'il y en a qui portent des lunettes ici. Oui, non, il y en a oui, mais sur la tête. Ok, il y en a qui ne réalisent même pas. Vous savez quand vous avez les lunettes et vous les cherchez partout et en fait vous les avez sur les yeux. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi non parce que je n'en porte pas. mais... C'est intéressant comment on peut voir les choses, comment les choses sont devant nous, ce qu'on voit et comment on les interprète aussi. On peut tous voir la même chose et pourtant avoir une vision différente des choses. Moi, j'aime beaucoup les canards. Je ne sais pas si vous aimez les canards, mais j'aimerais vous savoir ce que vous voyez sur cette image, sur cette première image-là. Qui voit un canard? Qui voit un lapin? Qui voit les deux? Moi, je suis intelligent, moi, je veux les deux. Okay. Mais c'est intéressant parce que la moitié de la salle voit un lapin, la moitié de la salle voit un canard. J'ai essayé de vous influencer en parlant de canard, mais ça n'a pas marché. Certains voient un lapin, certains voient un canard. La dernière fois, j'étais sur les réseaux sociaux. Je sais que vous n'y êtes pas, vous êtes spirituel, vous êtes dans la parole de Dieu, mais j'avoue que moi, je scrolle sur les réseaux sociaux et je suis tombé sur cette image que je trouvais intéressante, surtout l'explication. Et il y en a qui commencent à être choqués, qui voient « Mais qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Pourquoi il met cette image-là » Et l'histoire en arrière de ça, bien sûr, c'est quand je vais grandir, je vais devenir comme maman. Mais l'histoire raconte que l'enfant a remis le dessin à son professeur. Et lorsque la photo est arrivée à la maison, la mère a ressenti le besoin de clarifier par une lettre à l'enseignante. Et a dit, « Chère Madame Jones, je tiens à préciser que je ne suis pas maintenant et je n'ai jamais été une danseuse exotique. » Je travaille chez Home Depot et j'ai dit à ma fille à quel point c'était mouvementé la semaine dernière avant le bizarre. Je lui ai dit que nous avions vendu toutes les pelles que nous avions, puis j'en ai trouvé une de plus dans l'arrière-boutique et que plusieurs personnes se battaient pour savoir qui l'aurait. Sa photo ne me montre pas en train de danser autour d'un poteau. C'est censé me représenter en train de vendre la dernière pelle à neige que nous avions chez Home Depot. Donc, si vous aviez prévu de venir me voir à la fin de la réunion, c'est peut-être vous qui avez l'esprit mal tourné. Tout ça pour dire qu'on peut voir une chose et on peut tous voir la même chose et pourtant la voir différemment. On peut voir une situation et la voir différemment. Et souvent, le jugement embarque là-dedans quand on voit des situations. Même à l'église, souvent, on est très bon pour se juger les uns les autres. « Ah, t'as vu telle personne, ce qui se passe ?» Et on ne connaît pas la situation. Et on juge sur ce qu'on voit parce que nos yeux voient. Et tout ça pour dire qu'on peut regarder la même chose et pourtant voir deux choses différentes. Avoir deux regards différents sur une situation et toute ressemblance avec une situation dans votre couple est fortuite. Okay? On peut voir, je ne sais pas si vous arrivez dans votre couple, moi ça m'arrive, il y a une situation mais tous les deux on voit une chose différente sur comment c'est perçu. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas quelque chose sur le couple. Denis Morissette s'en vient la semaine prochaine. Et j'aimerais vous parler d'un passage dans la Bible où la façon de voir des personnes impliquées a changé leur destinée individuelle, mais aussi a changé la destinée de tout un peuple, d'un peuple entier. Et ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël était en captivité depuis trop longtemps déjà en Égypte. Et Dieu décide de faire monter un homme qui s'appelle Moïse. Et il se révèle à lui et il dit « Va ». Libérer mon peuple. Va en Égypte et va libérer mon peuple. Et Moïse part avec Aaron, tout ça, va devant Pharaon, il clame pour la liberté du peuple. Pharaon veut pas, il y a les 10 plaies d'Égypte. Je fais une histoire vraiment très courte, je passe rapidement. Et ce qui arrive, c'est qu'ils finissent par sortir d'Égypte. La mer s'ouvrant en deux, ils passent à pied sec et ils sont libres, ils sont libérés. Une chose incroyable, ils se retrouvent en face d'un désert. Et ce qui arrive, c'est qu'ils sont libres, mais ils sont dans le désert et Dieu les dirigeait à ce moment-là dans la nuée, par la nuée dans le désert. Et ils ont vécu plein de miracles, la mer ouverte, la nuée devant eux. Et on est dans le désert, ils n'avaient pas à manger. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé la manne. Chaque jour, ils avaient quelque chose à manger. Combien aimeraient avoir la manne en ces temps d'inflation? Oui, alléluia. Plein de miracles qui se passent devant eux. Et finalement, après environ un an dans le désert, rempli de pérégrinations à droite, à gauche, etc., après un an, ils se retrouvent, ils sont proches de la frontière de la terre promise qui est le pays de Canaan. Et on se retrouve dans le livre que vous lisez le plus après les psaumes et les proverbes, le livre des Nombres. Au chapitre 13, dans lequel Moïse, à la demande de Dieu, décide d'envoyer 12 espions pour explorer la région et faire un rapport pour donner des informations sur la terre, sur ses habitants et ses ressources, savoir si c'est un bon pays. Et voici ce qui arrive après 40 jours. Les espions reviennent pour faire un rapport complet, nombre 13, 25 à 27. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. » Ils ont ramené plein de fruits du pays. Ils ont même rapporté une grappe de raisin qui était tellement lourde qu'il a fallu 2 hommes pour la transporter. C'était vraiment des fruits hallucinants et c'était vraiment la promesse que Dieu avait un pays d'abondance pour eux. Mais il y a la suite. Nombre 13, 28. Mais, il y a toujours un mais. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. En gros, c'est super, mais ça va être compliqué. C'est génial ce que tu as prévu, Seigneur, mais écoute, on va peut-être passer notre tour pour cette fois. Et on va voir ce qui se passe. Et je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi des fois de dire « Hey, c'est super ce que tu as en réserve pour moi, Seigneur, mais je pense qu'on ne va pas le faire finalement. » Je ne suis pas sûr. Tu as dit que tu avais des promesses pour moi, mais ça a l'air compliqué quand même ton affaire. Ça me demande trop d'efforts, donc je ne suis pas sûr que je vais y aller. Pas vous, bien sûr. Moi, ça m'arrive, je vous avoue. Je me confesse, ce matin, ça me fait du bien. Mais des fois, on peut être comme ça. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a eu 12 espions qui sont allés, les 12 reviennent, et il y en a 10 qui donnent ce rapport-là. Mais il y en a 2 qui, eux, sont différents. Caleb et Josué. Et nombre 13, 30... Il est dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Parce qu'ils étaient en train de dire, pourquoi tu nous as amené là, Moïse? Tu nous fais galérer pendant 1 an, tu nous fais sortir, on mange tout le temps la même chose et en plus on se retrouve devant un pays qu'il va falloir combattre, devant des géants. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. C'est fou comment quand on ne veut pas quelque chose, on voit tous les défauts qu'il y a. Dans les relations, c'est la même chose. On met l'emphase sur ce qui nous déplaît et on montre quelque chose de gros. Sur les 12 qui ont fait un rapport, 2 sont positifs et 10 sont négatifs. Et j'aimerais te dire ce matin que la majorité n'est pas égale à la vérité. Ce n'est pas parce que la majorité des gens disent quelque chose que c'est forcément ça qu'il faut faire. La majorité des gens, ce que disent la majorité des gens, n'est pas forcément la volonté de Dieu pour toi. Je le répète parce que c'est bon. La majorité n'est pas forcément la volonté de Dieu pour ta vie. Et souvent, on va voir les uns et les autres, qu'est-ce que t'en penses? Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Qu'est-ce que t'en penses? La majorité n'est pas forcément en accord avec la volonté de Dieu. D'ailleurs, si c'était aligné à la majorité, Noé n'aurait pas construit de bateau. Si c'était aligné à la majorité, David n'aurait pas combattu Goliath. Non, reste là, il est trop grand. Écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Reste là, on est bien, on est tranquille. Prends un sandwich, assieds-toi, prends un thé, vas-y. Si c'était aligné à la majorité, Caleb et Josué, spoiler, ne se seraient pas emparés de la terre promise. S'il s'était aligné à la majorité, Jésus ne serait pas là à la croix. Les disciples auraient dit, non, reste là, reste avec nous, on est bien, viens, on va conquérir le monde ensemble. Jésus. Mais Jésus t'aimait tellement et la volonté de Dieu était tellement forte pour lui que quand il est arrivé dans le jardin de Gethsémané, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il n'a pas demandé la vie de ses disciples parce qu'il savait qu'il aurait retenu. Jésus ne s'est pas aligné à la majorité. Il s'est aligné à la volonté de Dieu. Il est allé sur la croix pour toi et pour moi et ça, c'est une bonne nouvelle. Si je m'étais aligné à la majorité, je ne serais pas devenu pasteur. Quand j'ai voulu devenir pasteur, on m'a dit, il y a du boulot, mais il n'y a pas d'argent. Ça veille ça. Si vous étiez aligné à la majorité, vous ne seriez pas là ce matin. la majorité n'est pas gage de vérité. La majorité n'est pas gage de la volonté de Dieu pour nos vies. Et souvent, on a tendance à dire, on va voir les gens et que disent les gens sur ma situation? Que disent les gens? Quand je vis quelque chose de difficile, quand ça va mal dans mon couple, quand ça... il y a toujours plein de conseillers pour nos situations. As-tu remarqué ça? Les gens, ils ont toujours, oui, tu sais, moi, je crois qu'un tel, puis tu sais, la parole de Dieu dit ça, etc. Et souvent, on va voir les gens pour entendre ce que nous, on veut entendre. Et souvent, on va vers les gens dont on sait qu'ils vont dire la chose que nous, on veut entendre. Pour nous rassurer, pour nous conforter. La question, c'est que disent les gens sur ta situation? Et c'est bon, jusqu'à un certain point, la Bible nous dit qu'il y a de la sagesse dans une multitude de conseillers. Mais que dit Dieu sur ta situation? Que dit Dieu sur ta situation? Est-ce que tu lui as demandé? Il y a des gens qui viennent me voir, qui me disaient, « Hey Stéphane, qu'est-ce que tu penses? Il y a ça, ça, ça. Qu'est-ce que je devrais faire? » Et souvent, les chrétiens se déresponsabilisent. Ils disent, « Qu'est-ce que je devrais faire? » Et ils viennent voir même les pasteurs. Et souvent, ce que je fais, je leur dis, « Mais que dit Dieu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? » Les pasteurs, on n'est pas appelés à être des gourous. On est appelés à être des personnes qui conduisent les gens vers Jésus. Et vous êtes appelés à aller chercher la volonté de Dieu auprès du Père, auprès de Jésus, dans sa présence. Oui, les gens, les frères et les sœurs, mais que dit Dieu sur ta situation? Parce que si on suit ce que les Israélites pensent, en fait, ils restent dans le désert. Parce que c'est trop compliqué, c'est trop grand. Et ce qui arrive, c'est que les gens vont nous dire des choses, des conseils qui nous laissent, nous, souvent, dans le confort et la sécurité. Quand on a des rêves pour Dieu, souvent, ça prend du risque. Ça prend d'aller de l'avant, ça prend la foi. Or, notre cerveau est fait de telle manière que « Non, non, reste là, t'es bien ici. Pourquoi tu vas aller là ?» Les proverbes disent « emprunte des routes sûres ». Et c'est fou comment on est capable, comment les gens sont capables de nous laisser dans le confort et la sécurité, saupoudrer d'une certaine sagesse avec quelques versets bibliques tirés par-ci par-là. Mais que dit Dieu sur ta situation? Et les gens arrivent avec « voici les 10 raisons pour lesquelles il ne faut pas y aller ». Verset à l'appui. 2 sur 12 pour attaquer, c'est 16%. 16% du monde pour attaquer et aller dans la terre promise. Et vous serez d'accord avec moi, on ne gagne pas une élection avec ça. Mais la volonté de Dieu n'est pas une question de démocratie. Peut-être j'en choque ce matin. Mais la volonté de Dieu n'est pas une question de démocratie. Parce qu'en général, on vote pour ce qu'on veut. Et Dieu n'est pas un politicien avec un programme et des promesses vaines. Dieu est un père avec des projets de paix et de bonheur pour toi, avec des promesses certaines. C'est la fête des pères dans la semaine prochaine. Dieu est ce père-là. Dieu est ce père avec des projets de bonheur pour toi, pour ta vie, et avec des promesses certaines. Si seulement tu décides la volonté qu'il a pour toi. Si Dieu t'a dit quelque chose, ne laisse pas la majorité te détourner. Ne laisse pas la majorité diminuer les promesses qu'il t'a faites. Parce que tu vas passer à côté de ce qu'il avait prévu pour toi, de ce qu'il t'a même promis. Nombre 13, 32 nous dit, « Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu dans ta situation? Que vois-tu autour de toi? C'est intéressant. À nos yeux et à leurs yeux. Tous sont d'accord pour dire que c'est un pays d'abondance, avec de belles ressources, des beaux fruits, des belles choses, c'est incroyable, il y a des chutes d'eau, des verts pâturages, des petites montagnes, des petites biches qui galopent. Tous sont d'accord là-dessus. Ils trouvent que le pays est incroyable. Mais 10 sur 12 trouvent que le pays est fort et puissant, car ils y ont vu. Car ils y ont vu des géants qui rendent la conquête impossible. Dieu de l'impossible. La conquête est impossible parce qu'il y a des géants. Et j'aimerais vous proposer cette idée que le contraire de la foi, ce n'est pas le doute ou le manque de foi. Le contraire de la foi, c'est la vue. Le contraire de la foi, c'est la vue. Parce que la vue nous montre des choses qui, à notre image, à nos yeux, nous semblent impossibles. On se dit, mais non, c'est pas possible, c'est... Écoute, je crois en Dieu, j'aime Jésus, il m'a sauvé, mais à part ça, je ne suis pas sûr que Dieu peut faire quelque chose pour ma situation. On le chante, on le dit, oui, bon, ça nous fait du bien, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Que vois-tu? Car nos yeux nous jouent des tours et nous montrent ce qui semble impossible à première vue. Pourtant, 2 Corinthiens 5, 6, 7, je suis en train de prêcher le dernier chant qu'on a chanté ce matin, c'est incroyable. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, car nous marchons par la foi et non par... Et souvent, c'est un slogan. Nous marchons non par la foi, marchons pardon, par la foi et non par la vue. Lapsus. Mais est-ce qu'on marche vraiment par la foi ou est-ce qu'on marche par la vue? Dieu m'a dit que je ferais ça, j'irai là, je ferai ça, que je me battrai pour mon couple, pour mes enfants, pour mon travail, pour... Mais est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que je crois ce que Dieu m'a dit? Est-ce que je marche par la foi ou est-ce que je marche par la vue? Et ce qui est intéressant, c'est que le peuple d'Israël, à ce moment-là, marchait par la vue. Il y a des géants, c'est bon, c'est impossible, on arrête. Stop. Mais les promesses de Dieu, il y a toujours des combats dedans. Il y a toujours des combats rattachés aux promesses de Dieu. C'est jamais facile, c'est jamais easy où on pousse sur un, on appuie sur un bouton et puis piou, la promesse tombe. Non. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on fasse équipe avec lui. C'est lui avec nous. C'est nous avec lui. Et il veut qu'on s'empare de ses promesses avec lui. L'autre problème à ce moment, c'est pas tant ce qu'ils voyaient, mais là où ils regardaient. Là où ils dirigeaient leur regard. Où est-ce qu'ils dirigeaient leur regard? Sur les géants et non sur Dieu. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on met le focus et on met notre regard sur nos problèmes au lieu de regarder à Dieu. On voit juste ce qui est devant nos yeux et c'est trop. Ils mettent leur regard sur les géants et non sur Dieu. Et quand tu commences à mettre ton regard sur les circonstances plutôt que sur le Dieu qui change les circonstances, ta foi commence à s'effondrer. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Pierre. Pierre est dans la barque et avec les disciples et il y a une tempête. Il y a une tempête qui est là, il y a le vent qui souffle, il y a les vagues qui sont de plus en plus fortes. Et les vagues. Vous connaissez l'album NV Junior? C'est super bon. Les vagues sont là, il se passe quelque chose de fou. Et à ce moment-là, dans le brouillard de tout ça, Jésus arrive sur les eaux, il marche sur les eaux. Walking on water. Il est là, il arrive, il est tout calme, tout ça. Et eux, ils ont peur. Au début, ils croient que c'est un fantôme, mais il arrive, et ils voient Jésus. C'est Jésus! Et Pierre, tout excité, dit, dis-moi de venir vers toi. Et Jésus est sur l'eau et dit, viens. Et Pierre fait, ok. Parce que répondre aux promesses de Dieu et à l'appel de Dieu sur nos vies, ce n'est pas facile. Peut-être à un moment, tu vas checker. Ceux qui disent, oui, je suis fort, quoi, c'est peut-être vrai des fois, mais franchement, la plupart du temps, quand tu vas dans ce que Dieu te demande, tu checkes. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Par contre, c'est sûr. Et il sort. Et pourquoi il arrive à marcher sur l'eau? Parce qu'il regarde Jésus. Il voit. Mais à partir du moment où il commence à regarder autour, les circonstances sont... Pouf, il s'effondre. Il s'effondre et il tombe dans l'eau. Je ne crois pas que c'est que Pierre n'avait pas de foi. Je crois que le problème de Pierre à ce moment-là n'était pas sa foi. Le problème de Pierre à ce moment-là était sa vue. Parce qu'il a regardé autour de lui, il a regardé les circonstances, il a arrêté de regarder à Dieu. Que vois-tu? Où mets-tu ton regard? Mais ils regardaient, eux, les géants, en disant, regarde comme ils sont grands! Regarde comme ils sont grands, ils sont trop grands, on n'y arrivera pas, ça ne marchera pas. Ma situation est trop compliquée, mon couple est trop dans la misère, ça ne reviendra pas ensemble. Écoute, oui, j'ai prié, mais je n'y crois pas trop. Mon enfant est trop loin de Dieu, écoute, si tu savais, il est dans la drogue. Je ne sais pas comment tu peux faire. Mais voici une clé si tu veux remporter des victoires avec Dieu. Arrête de dire à Dieu combien tes problèmes sont grands et commence à dire à tes problèmes combien ton Dieu est grand. Parce que quand tu commences à faire ça, il y a une foi qui monte en toi. Arrête de dire à Dieu combien grands sont tes problèmes. Oh Seigneur, tu vois combien c'est compliqué. Je prie. Tu peux prier 3 heures comme ça. Hein. Mais franchement, ça te down. T'es comme, c'est difficile. Mais commence à dire à tes problèmes. Non, mon couple va aller mieux parce que mon Dieu est avec moi. Mes enfants vont sortir de là parce que mon Dieu est tenu de promesse. Il a déclaré que. Et quand tu commences à faire ça sur tes problèmes, tu commences à avoir une foi qui monte en toi. Quand dans tes prières, tu déclares la grandeur de Dieu, tes circonstances diminuent, tes yeux humains diminuent et tes yeux de la foi grandissent. Arrête de dire à Dieu la grandeur de tes problèmes. Commence à dire à tes problèmes la grandeur de ton Dieu. Amen. Ça, pour moi, c'est une clé qui m'a fait remporter des victoires hallucinantes et surtout qui m'a permis de persévérer dans les situations extrêmement difficiles de la vie. Et ce qui arrive, c'est que quand tu commences à faire ça, à prier comme ça, à chanter des louanges qui parlent de sa grandeur, la situation et les circonstances n'ont pas changé, mais ton regard a changé. Ta foi a changé, ta foi a évolué. Ce qui arrive, c'est que quand on ne fait pas ça, quand on fait juste regarder les obstacles, les circonstances, on commence à se faire des films et à voir tout ce qui va mal aller. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça? Ouais, puis il va y arriver ça, puis il va avoir ça, puis en plus, c'est le pire parce que ce que tu comprends, parce que... Et on se fait des films mieux que Steven Spielberg. Il y a des effets spéciaux de fou. On imagine des tempêtes qui n'ont jamais existé. Et on se fait des films. Et notre foi commence à s'effondrer. On commence même à blâmer les autres de nos situations. Et on commence à blâmer Dieu. Ouais, mais Dieu, si tu avais fait ça, tu aurais pu... On avait dit que j'avais de l'humour au début, c'est pour ça qu'il y en a qui rient. Et on en vient même à croire que le passé était finalement meilleur. Tout simplement parce que notre regard, ce qu'on voit, est sur les obstacles et les circonstances, et pas sur Dieu. Nombre 14, 1 à 4. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Qui veut devenir un leader ce matin ? Et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Ouch. Ouch. Moïse et Aaron, à ce moment-là, tombent le visage contre terre devant toute l'assemblée et Josué et Caleb déchirent leurs vêtements. C'est une façon de l'époque de dire « je suis dans le deuil, c'est pas possible ce qui se passe ». Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Et là, ce qui arrive, c'est que Caleb et Josué sortent un discours de la mi-temps du Super Bowl. On perd de deux touchés. Mais guys, tout est possible. Vous voyez ce genre de discours? C'est qu'on nous monte là. Et voici ce qui se passe. Les coachs Josué et Caleb arrivent. Josué et Caleb, nombre 14, 7 à 9, dirent à toute l'assemblée d'Israélites, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. Ouais. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ouais. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. Ouais. » Et après ça, tout le peuple fut comme un seul homme derrière Caleb et Josué. Ils s'emparèrent du pays promis. C'était tout pour moi ce matin. Merci d'être venu à Nouvelle Vie de Drummondville. Soyez bénis. Non. Verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Méchant discours. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui ?» Et la suite est terrible, parce qu'il y a une conséquence à ça. Nombre 14, 23, voici ce que dit Dieu. « Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. » La façon dont tu vois les choses aujourd'hui va déterminer ce que tu verras demain. Ou pas. Comment vois-tu les choses? Que vois-tu sur tes situations? Il y a des promesses que Dieu a pour nous, mes amis. Il y a notre nom écrit dessus et elles restent à prendre la poussière sur des étagères parce qu'on est comme le peuple d'Israël et on reste tranquillement dans le désert. La façon dont tu vois les choses aujourd'hui va déterminer ce que tu verras demain ou pas. Mais, nombre 14, 24. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il était animé d'un esprit différent de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Mais la Bible nous dit que Caleb était animé de notre esprit. Caleb et Josué avaient foi en Dieu et voyaient ce que lui seul pouvait faire. Renverser les impossibilités et leur donner la victoire. Amen. Y a-t-il des Caleb et des Josué dans la salle? Animés de notre esprit. Animé d'un esprit différent. Et dans ce passage, quand on parle d'un esprit différent, on ne parle pas du Saint-Esprit. On ne parle pas d'un esprit prophétique ou quoi. On parle d'une mentalité, d'un état d'esprit. Caleb était animé d'un autre esprit. Il avait un esprit différent de ceux qui l'entouraient. Il était optimiste. Il voyait le verre à moitié plein. J'aimerais même dire qu'il le voyait plein, en fait. Parce qu'il voyait tout ce que Dieu pouvait faire. Il croyait qu'avec l'aide de Dieu, il pouvait vaincre tous les géants sur sa route, même si les autres en doutaient. Même si la majorité n'était pas avec lui, il avait une vision que ni l'âge ni les circonstances ne pouvaient altérer. En fait, Caleb était un homme de grit. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce mot en anglais. De grit. Un homme de niaque, de ténacité. Il ne lâche pas. Si je pouvais comparer Caleb à un animal, à un chien, ce serait un pitbull accroché à une branche. Il avait quelque chose de rare, même aujourd'hui. Il avait du courage, de la persévérance malgré les obstacles. Et c'est ce qui fait souvent, c'est ce qui nous sépare des promesses de Dieu pour nos vies. Est-ce qu'on veut du tout cuit ou est-ce qu'on est prêt à combattre avec Dieu le bon combat de la foi? Caleb était ce genre d'homme-là qui avait un état d'esprit différent, qui était prêt à se battre, à combattre et à voir les possibilités, qui était prêt à aller de l'avant et à persévérer malgré les obstacles. Il continuait, il ne lâchait pas. Et Dieu n'est pas impressionné par l'intelligence ou le talent, mais par le caractère. Soyons des Caleb animés de notre esprit. Soyons des Caleb qui allons conquérir des champs impossibles à conquérir. Parce que Dieu est avec nous. Et si Dieu nous l'a promis, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera la victoire. Et j'aime cette pensée que la foi ne rend pas les choses faciles, elle les rend possibles. Souvent, on a fait de la foi quelque chose de magique, comme une lampe au génie. Hop, on appuie sur la lampe au génie, puis la foi, ça y est, c'est ça. C'est pas ça. La foi, c'est de croire que Dieu est avec nous. La foi, c'est de croire que Dieu tient ses promesses. C'est parce qu'il tient ses promesses, je vais me tenir, je vais rester là et je vais m'accrocher. Parce que les promesses de Dieu sont vraies et certaines. La foi ne rend pas les choses faciles, elle les rend possibles. Et souvent, on aime chanter des choses, oui, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 12, qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Et tout le monde veut vivre ça. Tout le monde aimerait vivre la conquête. Par contre, personne ne veut être dans la peau du peuple d'Israël quand le rapport est fait qu'il y a des géants, il y a ci, il y a ça. Tout le monde veut vivre des miracles, mais personne ne veut se mettre dans des situations pour vivre des miracles. On est trop bien dans notre confort. On est juste là, tranquille, apaisé, c'est super. Si on veut vivre des miracles, si on veut vivre des choses que Dieu nous promet, il va falloir qu'on sorte du bateau à un moment donné. Il va falloir qu'on se risque, il va falloir qu'on se mouille un peu. On peut toujours remonter nos pantalons. Caleb voyait les choses que les autres ne voyaient pas. Il voyait les choses avec les yeux de Dieu. Alors quand tu vois ce qui semble impossible devant toi, pour ton couple, pour tes enfants, pour tes projets, pour ton appel, pour toutes sortes d'autres raisons, pour lancer ton entreprise, ferme les yeux. Ferme les yeux. Prie et ouvre les yeux de la foi, car Dieu veut te montrer ce que lui peut faire. Bizarrement, mon conseil ce matin, c'est ferme tes yeux. Puis l'idée n'est pas de fermer les yeux pour nier ce qui se passe. Il y a des chrétiens qui sont là, non, mais tu sais, gloire à Dieu, Dieu est bon, alors qu'ils vivent des choses horribles. Et des fois, ce sont des formules toutes faites. L'idée n'est pas de nier ce qu'on vit, ou ce qui est en face de nous, ou la douleur qu'on ressent. L'idée n'est pas de fermer les yeux pour ça, mais l'idée, c'est de ne pas te laisser influencer par ce qui se passe. Ou ce qui ne se passe pas parfois. Des fois, tu ouvres les yeux, il ne se passe rien. Et tu te dis, mais la promesse, elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que Dieu avait promis ça, il avait dit ça, puis il semble qu'il ne se passe rien. Et des fois, le pire, c'est quand il ne se passe rien. Et on se dit, ah, peut-être que finalement, Dieu a changé d'avis. Alors, ferme tes yeux. Ferme tes yeux et va juste dans la prière, pour que Dieu puisse ouvrir tes yeux de la foi. Parce que le contraire de la foi, c'est la vue. Ferme tes yeux, va dans la présence de Dieu. Éphésiens 3:20 nous dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, ou même imaginons. On le sait, on le lit, on le connaît, mais est-ce qu'on le vit? Dieu nous appelle à vivre cette foi-là. Alors à partir d'aujourd'hui, change ta façon de voir. Arrête de regarder avec tes propres yeux, mais regarde les choses avec les yeux de Dieu, les yeux de la foi. Regarde les choses avec les yeux de Dieu et regarde à Dieu. Mets ton casque de réalité spirituelle et vois ce que Dieu peut faire. Et une fois que tu as fermé tes yeux et que tu as mis ton casque de réalité spirituelle, que vois-tu? La façon dont on voit les choses change notre façon de le vivre, notre façon de prier et notre façon de vivre les promesses de Dieu pour nous. Quand tu fais ça, quand tu commences à fermer les yeux et juste à te concentrer, à mettre ton focus sur Jésus, tu vois les possibilités, tu vois que c'est possible. Tu vois que Dieu peut tout changer, tout transformer et dire comme Caleb, si Dieu est avec nous, il nous donnera la victoire. Ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que le pays promis était le but ultime de leur voyage. C'était ça, ils s'en allaient pour le pays promis. Alors oui, ils s'en allaient pour aller louer Dieu dans le désert. Mais ultimement, leur voyage, tout ce passage, la mer ouverte, passer dans le désert, la manne, les cailles, tout ce que tu veux, tout ça était pour une seule chose, le pays promis, l'espérance. C'était ça le but ultime. Et en fait, c'était une promesse. Dieu leur avait promis avant même que le peuple ne soit délivré. Alors que Moïse ne connaît pas vraiment Dieu, il se révèle à lui au travers d'un buisson ardent. Et à cette même rencontre, il lui confie déjà cette promesse. alors que Moïse n'a pas encore accepté. Il lui dit, Exode 3, versets 7 à 8, « L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » Et plusieurs fois après ce moment, plusieurs fois après cette déclaration à Moïse, la promesse d'un pays où coule le lait et le miel sera répétée. Plusieurs fois. Il n'y a aucun moment, Dieu n'élude le fait qu'il y a des peuples qu'il faudra combattre. Il le dit. Souvent, des fois, tu sais, on entend peut-être des prophéties où « Ah, tu vas vivre ça, il y aura ça, ça et ça. » Et on montre juste le glorieux. De dire « Oui, tu vas être là. Wow. » Dieu ne ment pas sur la destination et comment on va faire pour s'y rendre. Il le dit. Et plusieurs fois, il le répète. Il n'élude jamais ça. Moi, ma question, c'est comment ont-ils pu oublier? Comment ont-ils pu oublier cette promesse, la plus belle des promesses, un pays promis où coule le lait, le miel, où ça va être super? Comment ont-ils pu oublier ça? À moins qu'ils n'aient pas oublié. À moins qu'ils s'en rappelaient, mais ils n'y croyaient pas vraiment. Et je crois qu'il y a une très grosse différence entre se rappeler les promesses de Dieu et croire dans les promesses de Dieu. Souvent, on se rappelle des promesses de Dieu. On les connaît. On s'en rappelle. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu peut le faire? On peut se rappeler des choses qu'on a entendues, mais ne pas y croire. On peut lire la parole, les lire passer comme ça, lire les promesses et ne pas y croire. Je crois qu'ils se rappelaient de la promesse de Dieu, mais ils n'y croyaient pas. Pourquoi? Parce que les circonstances étaient trop grandes. Dieu nous a fait des promesses, des fois, mais le temps passe et on n'y croit plus. Ça m'est arrivé. Le temps passe et on se dit « Ah, les circonstances ne sont pas favorables. » On se dit qu'on s'est imaginé des choses dans notre tête. Est-ce qu'il y en a qui sont avec moi ce matin? De dire « Ah, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que... Ah, c'est peut-être moi. J'étais dans un moment de prière. Il y avait Sonia qui chantait en avant, puis j'étais parti en louange, puis j'ai cru recevoir quelque chose. » Et on commence à douter, on n'y croit pas. On se dit « Ah, peut-être qu'on a mal compris. » Et même l'ennemi de nos âmes, le diable, est là et dit « Franchement, tu crois que c'est sérieux cette promesse-là? Pour vrai? T'y crois? Comment ?» On se rappelle les promesses de Dieu, mais est-ce qu'on y croit? Je crois qu'il se rappelait de la promesse, mais qu'il n'y croyait pas. Parce que lorsque tu crois, tu te bats pour l'obtenir. Quand tu crois quelque chose, tu te bats pour l'obtenir. Et la vérité, c'est qu'il faut se battre pour s'emparer des promesses de Dieu. J'aimerais inviter les musiciens à bien vouloir me rejoindre ici. La vérité, c'est qu'il faut se battre pour s'emparer des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont très rarement passives. À la limite, une des rares promesses que Dieu a faites où on a été passif, c'est la venue de Jésus-Christ. C'est Dieu qui a envoyé son Fils. Mais les promesses de Dieu sont rarement passives. C'est toujours un travail d'équipe. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pas les violents dans le sens de... Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a? Dieu, il a promis... Non, c'est pas ça du tout. Excusez-moi, c'est mon côté enfant qui est NV Junior qui remonte. Mais dans le sens, les violents, tu t'accroches. Un esprit différent. Tu es là, tu te dis, non, déjà promis, je ne m'aime pas, je vais être là. Tu es ici, puis je vais prier matin, midi et soir, lundi, mardi, mercredi. Et même quand ça ne va pas, même quand les circonstances semblent incroyables, impossibles, même quand il y a des géants, je vais me tenir là, je vais dire, non, Dieu m'a dit que. Alors je... Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et je pense que pour certains, ce matin, tu es comme le peuple d'Israël. Tu n'as pas oublié les promesses que Dieu t'a faites. Tu les as juste enfouies. Tu les as juste enfouies. Tu n'y crois pas. Tu n'y crois plus. Tu les as enfouies parce qu'il semblait qu'elles ne pourraient pas se réaliser. Mais Dieu ne se repent pas de ses promesses. Dieu ne se repent pas de ses promesses. Et les promesses de Dieu sont vraies et certaines. Il ne les a pas oubliées. Toi, tu les as peut-être oubliées, mais lui ne les a pas oubliées. Et Dieu veut renouveler la promesse qu'il t'a faite ce matin. Il te dit, ma promesse tient toujours. Ma promesse pour toi tient toujours. Peu importe ce que tu vois, arrête de regarder, ferme tes yeux, fixe ton regard sur moi et crois que la promesse que je t'ai faite, je vais l'accomplir. En mon temps, mais je vais l'accomplir. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dieu veut renouveler cette promesse-là. Alors rappelle-toi ces promesses pour ta vie, mais crois qu'il va les accomplir aussi. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Prie en ce sens, bouge en ce sens. Certains disent dans la vie qu'il faut le voir pour le croire. Il faut le voir pour le croire. Ce qui se passe à Drummondville de Réunion, il faut le voir pour le croire. Mais je crois que très souvent dans la foi, il faut le croire pour le voir. Il faut le croire pour le voir. D'ailleurs, Hébreux 11:1 nous dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ce n'est pas réel. C'est réel, mais c'est de l'autre côté du combat. Il faut le croire pour le voir. En fait, le titre de mon message n'est pas bon. Je vais recommencer. On va recommencer ma prédication. Le titre de mon message ce matin, c'est « Que crois-tu ?» Que crois-tu ? Que crois-tu ce matin ? Que crois-tu de Dieu ? Que crois-tu des promesses de Dieu pour toi ? Car ce que tu vas croire va beaucoup déterminer ce que tu vas voir. Et Caleb a cru les promesses de Dieu. Il s'est battu et il les a vues. Josué 14:7 nous dit « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnéa explorer le pays. Et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. » Josué 14:10 « Maintenant voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert, et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. » Un homme de notre esprit qui était prêt à patienter, qui était prêt à s'accrocher à la promesse, qui était prêt à se battre. Il dit, « Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. » Il s'est accroché. Il n'a pas lâché. Il a cru les promesses de Dieu. Parce que Dieu ne se reprend pas de ses promesses. Josué 14:14. C'est ainsi que Caleb, plus longtemps après, fils de Jephunné, le Kénizien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu vas pouvoir revenir. Que vois-tu ? Que vois-tu ? Comment vois-tu ta situation ? Où mets-tu ton regard ? Sur les défis ou sur Dieu ? Sur les circonstances ou sur ses promesses ? Que vois-tu ce matin ? Que vois-tu pour Drummondville ? Est-ce que tu crois que Dieu peut tout changer ? Est-ce que tu crois que Dieu peut tout renverser ? Est-ce que tu crois qu'il est le Dieu de l'impossible ? Dieu veut te donner un esprit différent ce matin. Dieu veut nous donner un esprit différent, qui voit les possibilités, qui voit ce que Dieu peut faire, que lui seul peut faire l'impossible. Est-ce que vous le croyez ce matin ? Il est celui qui change les temps et les circonstances. Il est le Dieu de l'impossible. Il est sans limite. Il est sans limite. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, c'est qu'on puisse se lever tous ensemble. Je ne connais pas ta situation. Peut-être que tout va bien en ce moment dans ta vie. Et gloire à Dieu, tant mieux, je me réjouis vraiment. Mais peut-être qu'il y a des promesses que tu as enfouies, que tu as mises de côté. Puis tu n'y crois plus, tu n'y crois pas. Mais Dieu est en train de te dire ce matin, ma promesse tient toujours. Ma promesse tient toujours pour ton couple, pour tes enfants, pour les projets que j'ai sur ta vie, pour l'appel que je place sur ta vie. Mes promesses tiennent toujours. Et je ne suis pas un politicien, je suis ton père. Et mes promesses sont certaines. Amen. Alors ce matin, ce que j'aimerais qu'on fasse, je vais prier, puis ensuite on va chanter ce chant, Dieu de l'impossible. Puis j'aimerais qu'on puisse le chanter comme une prière, comme une déclaration. Pensez à vos défis. Pensez à vos problèmes et parlez à vos problèmes et dites à quel point votre Dieu est grand, à quel point il est Dieu de l'impossible. Il est sans limite. Il est sans limite. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce matin. Merci parce que tes promesses sont vraies, elles sont certaines, Seigneur. Et tu ne nous as pas promis que ce serait facile, mais tu as promis que tu seras avec nous, Seigneur, dans les épreuves, dans les défis pour combattre avec nous. Et une fois de l'autre côté, la promesse sera là. Seigneur Jésus, je te prie pour qu'on puisse être des Caleb en puissance, des Caleb et des Josué qui vont voir différemment, même si la majorité ne pense pas comme nous, que nous, on va aller dans ta présence et au lieu d'ouvrir nos yeux et de voir ce qui est devant nous, on va fermer nos yeux pour mettre notre regard fixé sur toi et voir ce que toi seul peux faire. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu avais promis que tu viendrais sur la terre et tu es venu. Merci parce que tu as promis que si on vient devant toi et qu'on demande pardon pour nos péchés, tu nous pardonnes et tu nous donnes une nouvelle vie. Seigneur, merci pour tes promesses qui sont là, qui sont promises, qui sont certaines, qui sont réelles. Seigneur, on veut avoir ce regard de foi qui va dépasser ce qui est possible. Seigneur, qui va faire l'impossible et qui va combattre pour voir les choses que toi seul peux faire. Seigneur Jésus, nous voulons déclarer ce matin, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es sans limite. Seigneur, et nous voulons te donner la gloire et dire à nos problèmes, mon Dieu est plus grand que toi. Mon Dieu est plus grand que mes problèmes. Mon Dieu est plus grand que mes défis. Mon Dieu est plus grand que mes problèmes de famille ou mes défis financiers. Mon Dieu est plus grand, il est sans limite. Seigneur Jésus, reçois la gloire. Et Seigneur, comme les disciples, nous prions, augmente notre foi ce matin. Augmente notre foi. Dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors chante ce matin.